On va maintenant parler des messes parce que on parle de décloisonnement, mais malheureusement pour les croyants, vous ne pourrez pas aller à la messe dimanche. C'est déjà fermé depuis plus de 2 mois et demi. Et pour en discuter, on va aller joindre celui qui est cardinal de l'archevêché de Québec, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Éric.
Monseigneur Lacroix, dites-moi d'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible d'aller à l'église et d'avoir de la distanciation sociale. On n'arrête pas de dire que les églises sont vides. Si sont si vides que ça, qu'on mette un banc entre tout le monde puis qu'on mette de l'espace puis que les gens puissent, au moins les croyants, puissent aller le dimanche à la messe. C'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes prêts d'avoir une distanciation sociale dans les églises?
Monsieur Duhem, vous avez tout à fait raison. Nous sommes très, très bien et en moyen d'assurer toutes les mesures de précaution pour respecter les consignes de la santé publique, mais faut avoir le go, là, je fais pas un jeu de mots, là, mais il faut avoir le feu vert pour être capable d'ouvrir. Alors ça, c'est la santé publique qui le donne, le gouvernement l'autorise par la suite. Pendant presque 2 mois, on a eu à peu près pas de contact. On a essayé de toutes les façons possibles d'avoir un dialogue avec les instances de la santé publique, le gouvernement. Mais là, depuis cette semaine, là, on est entré dans un bon dialogue et on a pu présenter nos protocoles, les protocoles de tous les évêques du Québec. On s'est rassemblés, on a fait à l'aide de ce qui se fait ailleurs et de ce qui se fait ici. Et on a présenté un protocole et c'est en train d'être étudié. On s'attend à ce que bientôt, là, on a des nouvelles très positives. En tout cas, on est heureux de voir que ça avance. Mais on est très impatients et nos fidèles ne cessent de nous demander d'agir. Mais vous savez, on est des citoyens comme les autres. Hein? On doit respecter respecter la santé publique et les normes.
En même temps, attendez, mais Monseigneur Lacroix, il y a quand même des limites. Je veux dire, les gens, le présentement, il y a beaucoup de détresse psychologique au Québec. Ça a été très dur, le confinement, pour plusieurs personnes. Puis il y a plusieurs croyants que ça leur ferait du bien, là, mentalement, d'aller à la messe.
Oui, ben, je comprends donc. Hey, vous n'avez pas à me convaincre là-dessus, Éric. Écoutez,
est-ce que le besoin de spiritualité, ça fait partie de la santé mentale?
Que notre église est fermée, c'est-à-dire avec un grand E. Nous, on est très actifs et on essaie de toutes les façons possibles de rester en contact avec notre monde. C'est le téléphone, c'est Facebook, FaceTime, c'est Zoom, c'est Skype. On essaie de garder un lien. Vous avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux, sur notre web télé, on a une multitude d'offres de célébrations virtuelles, de temps d'échange, de temps de prière, pour soutenir notre monde, mais ça ne remplacera jamais la présence réelle de quelqu'un de rassemblement là, physique. Alors, on attend ça, mais on ne peut pas ne pas respecter dans le moment les consignes qui sont établies.
Mais il n'y a pas des endroits, puis je pense à un paquet d'églises, là, je n'y nommerai pas toutes, là, mais il y a des églises qui ont même des terrains, là, s'ils ont des grands terrains, des grands stationnements. Il y aurait moyen même de faire des messes dehors. Vous avez déjà fait ça. Je veux dire, puis là, il n'y a aucun danger. Là. En plus, les gens sont dehors, sont à 2 mètres. Là, c'est pas pire que d'aller dans un barbecue ou d'aller dans ces plaines d'Abraham, là.
Oui, c'est sûr. Et de fait, il y a certaines paroisses qui ont eu des initiatives similaires. Mais là, actuellement, on est en train de se préparer. J'ai décrété cette semaine que dans chaque paroisse, il devait se former un comité pour se préparer à voir comment ils vont appliquer dans chaque milieu. Les paroisses, maintenant, ont plus qu'un lieu de culte. Il y en a qui en ont 3, 4, 5, 8, 10. Alors, ils vont choisir lequel ou lesquels vont rouvrir dans une première phase. On va se préparer. Vous savez, ça demande beaucoup de préparation. Hein? Il faut désinfecter, il faut être sûr que la distance est respectée, il faut accueillir les gens, s'assurer qu'ils se lavent les mains, qu'ils portent un masque. Il faut aussi que notre personnel soit en mesure d'assurer la protection autant des gens qui sont au service de la communauté, les prêtres, les diacres, les laïcs, que les gens qui viennent.
Alors, vous parlez de tout le protocole qui est mis en place.
Nous, les catholiques, on distribue la communion. Il faut faire ça d'une façon sécuritaire.
C'est ça, M. Lacroix. Monseigneur Lacroix, c'est exactement ça que je veux vous poser comme question. Là. La communion. C'est compliqué là avec la distanciation sociale. Comment vous allez faire pour donner un hostie sans toucher à personne ou sans vous approcher à 2 mètres? Ça va être quoi le protocole? Ça va être dur, là.
Ben non, c'est-à-dire que on bénéficie de l'expérience de d'autres régions dans le monde qui ont commencé avant nous à se déconfiner, et qui commencent en Italie par exemple, en Espagne, en France. Bon, il y a d'autres endroits aux États-Unis, il y a certains endroits qui commencent là. À Vancouver, ils ont commencé, je pense la fin de semaine passée. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande une bonne discipline là. Pour la communion, probablement ce qui va arriver, c'est pas encore tout ficelé là, parce qu'on attend le retour de nos projets de protocole là, de la part de la santé publique, mais probablement que le ministre va porter un masque et la personne qui vient recevoir la communion aussi, et il sera pas question là de communier sur la langue, on va mettre l'hostie dans la main, mais sans toucher la personne. Le ministre, que ce soit un prêtre, un diacre ou un laïc qui distribue la communion, va se laver les mains juste avant de distribuer la communion, et il va déposer l'hostie sans toucher à la personne. C'est possible, ça, on la laisse tomber dans la main. Et si jamais il y avait un contact, ben à côté de cette personne-là, il y aura une petite table avec le gel nécessaire là pour se laver les mains, et il va continuer. Alors, c'est possible, c'est tout à fait possible.
Monseigneur Lacroix, est-ce que la foi au Québec en 2020 peut se vivre sans église, sans prêtre, sans communauté? Parce que ça se fait
non, la foi, c'est pas quelque chose, M. Éric, qu'on peut vivre seul. On a besoin les uns des autres. Humainement, juste humainement, on n'est pas fait pour vivre sur une île seule. On est fait pour vivre en communauté. Et la foi, et ça, on a vu ça, toute la Bible nous montre ça, l'Ancien comme le Nouveau Testament, les Évangiles. Jésus a formé des communautés de foi. Il a rassemblé des disciples, et après qu'il soit parti, après l'Ascension, la Pentecôte, le Saint-Paul et les Saint-Pierre et les autres ont formé des petites communautés. On a besoin des uns des autres pour se soutenir, pour prier ensemble, pour s'entraider. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin, demain, c'est toi. On a besoin de ça. Alors, on ne peut pas avoir une église virtuelle là, qui ne vit que de célébrations à la télévision ou à Internet. Je prends l'exemple, par exemple, de moi, depuis que la pandémie a commencé avec ma famille, moi, je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Mes parents vivent encore. Tout le monde est assez loin. On a une rencontre à toutes les semaines sur Zoom. On prend une heure ensemble le vendredi soir et on se raconte nos affaires. Chacun a son verre de vin à la maison et on partage et on rit, on pleure. Bon, on fait tout ça. Mais laissez-moi vous dire que ça remplacera jamais nos bonnes réunions de famille quand on est autour de la table ou assis ensemble sur un patio ou ben, dans un salon. Jamais. C'est mieux que rien, on se contente de ça pour le moment, mais c'est la même chose pour nos communautés de foi. On fait ce qu'on peut avec les moyens technologiques et tout ça, et on a progressé là-dedans, mais on a besoin d'être avec les autres. Ça, c'est incontournable.
On a parlé de la communion, maintenant, il y a une autre question que je veux savoir, c'est la quête. Parce que là, il n'y a plus personne qui a de l'argent, ils prennent plus d'argent nulle part. Là, allez-vous prendre les cartes de guichet, je sais pas trop comment ça va fonctionner pour les gens qui veulent contribuer à leur communauté. Vous pensez un terminal? Ça a l'air drôle de dire ça, mais c'est peut-être la solution. Là. Je lance une idée, mais comment vous allez faire pour que les gens puissent, les fidèles, puissent donner de l'argent?
Oui. Bien, évidemment. Puis c'est une question importante parce que nos communautés paroissiales vivent essentiellement de dons. C'est la majeure partie de nos revenus. Il y a quelques services, là, des honoraires pour des funérailles ou des mariages et tout ça, mais le gros, là, c'est la participation annuelle de la capitation ou les quêtes de chaque dimanche ou lors de rassemblement. Alors, oui, de fait, c'est une grande question, ça, M. Éric, et certaines paroisses, dont la cathédrale de Québec, ont déjà à l'arrière, à l'entrée, une machine où on peut, avec sa carte de crédit ou avec sa carte de paiement direct, choisir de faire une offrande là facilement sans toucher. Des paroisses ailleurs, et on en a peut-être déjà ici, déjà prennent des cartes de crédit ou du paiement direct. Mais on ne cessera pas de prendre de l'argent papier, évidemment.
Mais les gens en ont de moins en moins sur eux, là, c'est ça qui reste d'être problématique. Ouais. Je veux qu'on parle maintenant de l'aspect détresse, parce qu'on sait que ce qui s'est passé depuis 2-3 mois, ça a été très dur sur le moral de plusieurs personnes, des pertes d'emploi, des faillites, le fait de pas socialiser, d'être tout seul chez eux, les gens qui dépriment, les gros problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il y a des paroissiens là qui sont en détresse? Quel support l'Église peut amener à ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe là? En avez-vous entendu parler? Avez-vous en contact avec ces gens-là? Comment l'Église intervient?
Absolument. Ben, c'est une excellente question et moi, je suis fier de dire que nos équipes pastorales et les gens engagés dans les paroisses, qu'ils soient des laïcs, des femmes, des hommes ou des ministres ordonnés, diacres ou prêtres, ont été très actifs sur les téléphones et sur les réseaux pour accueillir et écouter les paroisses. Les gens peuvent appeler. Le diocèse de Québec a mis sur pied une ligne téléphonique sans frais pour offrir du soutien spirituel. Alors, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, les gens peuvent appeler et il y a toujours quelqu'un qui répond. C'est pas un répondeur à ces heures-là et on les écoute. On peut les rediriger parfois vers des ressources. Et il y a beaucoup d'organismes communautaires où il y a des gens d'église engagés aussi, hein, pas seulement au niveau de la nourriture et du logement et de tout ça, mais il y a beaucoup d'aide et d'accompagnement et ça se poursuit. C'est très discret, on voit pas ça dans les nouvelles, on voit pas ça sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de gens engagés qui prennent soin des autres, qui s'assurent qu'on téléphone dans les résidences de personnes âgées pour parler avec ceux qui vivent ça très difficilement. Imaginez-vous, nous on est plus en santé et on n'est pas confinés dans une petite chambre et on trouve ça difficile. Imaginez ces gens-là qui n'ont pas sorti depuis deux mois et demi. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de détresse et heureusement, il y a de l'aide, mais on n'est pas les seuls à en offrir. Hein?
Non,
il y a beaucoup d'autres organismes qui en offrent et c'est très important. Okay. Et on devra continuer ça parce que même lorsque le déconfinement va arriver, là, il y a une certaine tranche de la population. Si ça continue que les gens qui ont 70 ans et plus sont très limités dans leurs déplacements, ben chez nous, là, c'est non seulement une grande partie de nos fidèles, mais de nos ministres ordonnés aussi. On en a un grand nombre qui ont ces âges-là. Alors, il va falloir être très attentif. Nous, on a appelé tous les prêtres du diocèse, un après l'autre. Il y a une équipe de prêtres qui s'est mise ensemble et qui ont pris le bottin des prêtres. Ils ont appelé pour voir comment ça va. Et pas parce qu'on est des prêtres, vous savez qu'on vit pas de détresse et qu'on n'est pas préoccupé. On peut vivre ça plus difficilement. Et les gens dans les paroisses ont appelé toutes les familles en deuil qu'on a pu rejoindre, les couples qui devaient se marier au cours de l'été et qui ont reporté leur mariage. Ben, il y a des appels téléphoniques qui se font. On soutient notre monde du mieux qu'on peut. Okay. Moi, j'ai présidé une célébration de la parole qui a été diffusée sur Internet à l'intention des familles qui ont vécu un deuil et qui n'ont pas pu avoir de funérailles. Imaginez-vous si c'est triste, ça.
C'est très triste.
Ils n'ont même pas pu accompagner leur être cher dans les derniers jours.
On n'est pas capable de faire notre deuil dans ce temps-là. C'est des départs qui font encore plus mal. Je veux en finir avec une nouvelle peut-être un peu plus positive parce qu'on a appris au cours des dernières heures que la ministre du Patrimoine, Nathalie Roy, allait sauver, entre guillemets, l'église Saint-Sacrement. Ce que j'ai compris, je pensais moi, que c'était déjà fini parce que nous, ici, au FM 93, juste en face de nos studios, on avait un stationnement, on payait nos stationnements dans l'église, mais là, il y a tout été fermé, puis on pensait que la démolition était même commencée. Il y avait déjà une barricade qui avait été érigée tout le tour de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Il était-tu minuit moins 5, minuit ou minuit et 5 quand la ministre est intervenue cette nuit-là?
Ben écoutez, je vous avais annoncé ça comme une nouvelle positive. J'aimerais bien pourriez m'expliquer en quoi c'est positif parce que nous
accueillons. C'est un immeuble qui est patrimonial. C'est vrai que c'est une belle église, Monseigneur Lacroix. Vous pouvez pas dire le contraire.
Ben non, écoute, c'est un monument, qu'on voit de partout. C'est un très beau monument. Il paraît bien, mais il faut voir sa condition. Comme vous dites, vos bureaux, vos studios sont juste en face. Vous voyez que tout le côté ouest est abrié parce qu'à deux reprises, il y a des pans de mur qui ont tombé.
C'est ça.
Là, c'est le clocher ouest, le grand clocher qui est attaché puis enveloppé parce qu'il menaçait de tomber. Du côté est, il y a une rosace qui est dans les mêmes conditions. Ça fait un an que ce lieu de culte-là est fermé, puis on a dû le fermer parce que les experts, ingénieurs et architectes ont dit il est très dangereux, c'est pas sécuritaire. Alors, on a dû le fermer. De toute façon, il était jugé excédentaire pour la paroisse. Il y a deux autres lieux de culte, là, Saint-Charles-Garnier et Saint-Michel-de-Sillery.
Oui.
Moi, je comprends l'attachement très émotif et historique à ce bâtiment-là, mais c'est pas un monument classé historique qui a de valeur patrimoniale. Le conseil du patrimoine religieux le classe D, Alors, pas A, ni B, ni C, mais D. C'est très bas dans la cote. Ça veut dire qu'il n'y a pas une grande valeur patrimoniale. Et on n'a pas la possibilité de recevoir des subventions importantes. D'ailleurs, okay. La paroisse n'avait pas les moyens. On a déjà, monsieur Éric, déjà près $1 million d'investis, vous le croyerez peut-être pas, hein, juste pour s'assurer de la sécurité des gens qui vivent autour, qui passent autour, pour pas que ça leur tombe sur la tête. Et on attend toujours. Il y a des défauts structurels dans cet édifice-là. Il est dangereux. C'est pour ça que moi, pas juste moi, là, mais nous, là, du diocèse, premièrement, on n'a pas été consulté par Mme la ministre, là, ni non. La paroisse.
Ils ne sont jamais appelés, puis c'est pas votre décision. Vous n'avez pas pris ça ensemble, là.
Ben, pas du tout. C'est pour ça que moi, que je qualifie ce geste-là de sa part d'une décision irresponsable. Irresponsable. Ça fait quoi, ça, une lettre comme ça qui annonce son intention? Ça veut dire que probablement jusqu'à un an et peut-être même davantage, nous, on ne peut rien faire. On doit l'entretenir, on doit l'assurer, on doit le chauffer, payer les dépenses qui sont à peu près de $100,000 par année. On doit s'assurer qu'il ne tombe pas sur la tête du monde et qu'il blesse des gens. C'est pour ça qu'il y a une clôture autour.
Mais oui. Mais moi, je suis estomaqué, Monseigneur Lacroix, de vous entendre parce que je pensais que c'était une bonne nouvelle. Parce que ça fait moi, j'ai trouvé ça très triste que les fidèles ne se regroupent pas puis qu'on ramasse pas de l'argent pour sauver l'Église Saint-Sacrement. Je trouvais que ça faisait partie du patrimoine. Puis là, je parle pas des patrimoines avec des comités d'experts. Là, moi, je trouve qu'elle fait partie du paysage de la ville. Elle est centrale dans la ville de Québec. Puis de détruire cet immeuble-là, pour moi, c'est effacer un élément important de Québec.
Oui, puis je comprends ça. Puis écoutez, si on pouvait toutes les sauver, les églises, je serais bien content. Mais ça prendrait immédiatement, là, si on veut juste sécuriser ce qu'on voit et qu'on sait qui est urgent à réparer, là, au moins $3 million juste pour ça. Ensuite, le toit s'en vient qu'il faudra le changer. Il y a plein de choses.
Oui, on parle d'un million et demi. La ministre a dit qu'il faut la sauver, puis elle dit qu'elle est patrimoniale. Elle va vous donner de l'argent, certain. Elle n'a pas fait ça. Elle va pas vous dire, je vais vous envoyer la facture, là.
Non, elle donne pas une scène, Mme Nathalie, là. Mme Roy, la ministre, elle donne pas une scène. Au contraire, elle bloque les projets de la paroisse qui réfléchit depuis longtemps. Le conseil de fabrique a déjà pris la décision unanime que cet édifice, après de longues études et de consultations, il est excédentaire. Il est dans un état tellement pitoyable qu'on ne peut pas le sauver.
Mais comment ça se fait qu'elle a pris cette décision-là, d'abord? Ça sort de où, ça? C'est qui l'a conseillé?
Je pense que c'est public. Ça, il y a des gens du milieu qui ont signé une pétition dans un article que j'ai vu là sur Internet tout
moi,
à l'heure.
Moi, j'en ai signé une pétition. Vous avez raison. J'ai dû inviter le monde aussi à signer ça.
Et ça coûte pas cher signer des pétitions, vous savez. Il y avait 5000 noms. Mais est-ce que ces gens-là ont dit, ben moi, je vais en mettre 1000, je vais mettre 5000, moi, je vais mettre 100 000 pour...
Non, ça m'a rien coûté. J'ai signé puis ça a coûté zéro.
Bon, ben c'est ça. Et alors, ça vaut ça. Que voulez-vous? Moi, je comprends l'attachement très sentimental, historique à ce lieu-là. Mais même si on le rénove, là, puis on trouvait l'argent, on va faire quoi avec? On n'en a pas de besoin. Ça vit pas tout seul, un édifice comme ça. Il faut qu'il y ait du monde dedans. Et là, il n'y en a pas.
On ne peut même pas s'approcher. Il est dangereux. Il y a des morceaux qui tombent. Comme si vous voulez que je vous dise, on peut pas aller là.
C'est pour ça qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de le démolir. À contre-cœur, on fait ça, mais il n'y en a pas d'autre solution. Ça fait des années qu'on réfléchit à ça.
Les deux clochers n'avaient pas commencé à être enlevés?
Non, je pense pas.
Ils n'ont pas encore commencé.
Je vais demander aux responsables de la fabrique. Là, moi, je suis moins au courant de ces détails-là, où ils en sont. Mais je sais qu'ils ont étudié des scénarios et puis il y a des promoteurs intéressés à acheter, à démolir et à faire autre chose. Mais ça, vous savez, la Ville de Québec, il y a quelques années, a établi un programme pour sauver des églises patrimoniales. Et ils n'ont même pas... Le maire n'a même pas inclus Saint-Sacrement parce que ça n'est pas
eu. M. Porter était venu me parler de ça. Là. Il avait fait le rapport. Là. Il m'avait parlé de ça. Là, ça veut-tu dire que l'Église, vous allez la désacraliser? Est-ce qu'il faut comprendre ça?
C'est déjà fait. C'est déjà fait depuis presque un an. Je me demande si c'est pas au mois d'août, au début septembre, que Mgr Marc Pelchat, l'évêque auxiliaire, est allé pour la dernière messe. Et puis, écoutez, les ingénieurs et la santé publique et tout ça nous ont permis d'entrer à quelques personnes. C'était très limité parce que c'était dangereux à ce moment-là. Puis on est sortis. Moi, j'étais pas là, mais Mgr Pelchat avec les quelques personnes sont sortis pour dire c'est fini. C'est trop dangereux d'aller là.
Là, la ministre, allez-vous l'appeler?
Cette lettre de la ministre là, qui dit on classe ça, ça tombe de nulle part.
Mais là, qu'est-ce que vous allez faire, Mgr Lacroix? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous l'appeler? Allez-vous prendre un rendez-vous avec elle? Allez-vous essayer de la convaincre de renverser sa décision? Allez-vous respecter sa décision, mais lui demander de l'argent? C'est quoi la prochaine étape?
Ben, écoutez, là, les autorités du diocèse sont en train de regarder quelle sera notre réaction, la fabrique aussi. Moi, je peux vous dire qu'hier soir, j'ai téléphoné à la ministre pour essayer de la rejoindre. J'ai parlé avec un de ses adjoints.
Oui.
Je lui ai expliqué que je comprenais pas d'où ça sortait, ça, puis en quel honneur, et qu'on n'a même pas été consulté. C'est une décision unilatérale, sans consultation. C'est ça qui est... Si elle nous avait téléphoné, on lui aurait expliqué les choses, mais non. Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, demain, là, si j'ai pas de nouvelles avant midi, moi, je sors cette nouvelle-là, là, je m'en vais dans les médias, j'ai déjà des entrevues pour d'autres affaires, je vais parler de ça, puis je vais dénoncer ça. Comme un geste irresponsable.
Okay.
Et j'ai eu un téléphone ce matin, un peu avant 9h, de la part de ce même adjoint de Madame la ministre de la Culture, qui me dit, Mgr Lacroix, j'ai parlé à la ministre, elle maintient sa décision, elle continue à signer ce qu'elle a l'intention de faire. J'ai dit, êtes-vous sûr? Vous y avez parlé? Vous êtes sûr qu'il y avait ça? Oui. Il n'y a aucun changement, ça demeure. Bon. Alors j'ai fait ce qui était possible, mais ça peut pas rester là. Là, écoutez, c'est pour nous là, ça représente des sous qu'on n'a pas. Et deuxième chose, Monsieur Duhaime, pensez-vous qu'en ce temps de pandémie où nous n'avons à peu près aucun revenu, que c'est le temps de faire une annonce comme ça, de nous imposer de façon arbitraire, sans consultation, qu'on ne puisse rien faire pendant probablement un an, puis quand on lit le document, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Là, on est figé. Alors, on doit continuer de sécuriser cet édifice-là.
Ça va coûter des millions. On parle d'une décision qui va vous coûter des millions. Dans le fond, elle prend une décision, puis c'est vous qui payez. Là. C'est ce que je comprends de vos propos, là, Mgr Lacroix.
Oh, que vous comprenez bien. Alors, c'est pour ça qu'on va se défendre. Nous, on va s'opposer de toutes nos forces à cela. Ça peut pas être une bonne nouvelle. Ça n'est pas une.
J'avais pas vu seulement. Moi, j'avais vu ça comme un peu le crucifix là, de l'hôpital Saint-Sacrement. Je pensais que c'était une bonne nouvelle. Je me disais, on a un symbole patrimonial fort à Québec qui va rester.
Ouais. Mais on en a bien d'autres, vous savez.
Okay.
On en a bien d'autres. Et si celui-là est en forme, puis il y avait des gens pour l'habiter puis le rendre vivant, il n'y a aucun problème, mais c'est plus le cas.
Okay.
C'est ce que vous voulez. L'édifice ne peut plus recevoir de fidèles, à moins qu'on y investisse des millions et des millions et des millions que nous n'avons pas.
Et clair et limpide, Mgr Lacroix. Puis avant de vous laisser partir, je veux aussi vous parler parce que on s'est inquiété un peu de ce qui se passait avec les sœurs au jardin d'Évangeline. On a eu des mauvaises nouvelles pendant la pandémie de la COVID-19. Pouvez-vous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui se passe du côté du jardin d'Évangeline?
Ben, écoutez, j'ai été en contact très étroit avec ces religieuses, avec les sœurs provinciales. C'est des Ursulines qui sont là, et aussi des sœurs servantes Saint-Cœur de Marie. Puis il y a aussi les pères du Saint-Sacrement qui vivent là, vous savez, qui étaient autrefois derrière l'église Saint-Sacrement. Les prêtres plus âgés sont déménagés à Jardin Évangeline. Il y a plusieurs religieuses, surtout des sœurs servantes Saint-Cœur de Marie, qui sont décédées parce que dans cette aile où elles sont, dans cette partie de l'infirmerie qu'on appelle l'oasis, il y a probablement, on soupçonne que c'est à travers un ou des employés que ces sœurs ont été contaminées. Puis il y a aussi des prêtres qui sont décédés de la COVID, là.
Okay.
Alors,
on va leur offrir nos sympathies à vous et à vous toute la communauté.
Personnes âgées, et ça prend pas grand-chose que ce malin virus s'infiltre. Ces personnes âgées et déjà à l'infirmerie sont fragiles, sont plus vulnérables et puis malheureusement elles sont décédées. Et comme les autres personnes, elles n'ont pas pu avoir de funérailles. Tu sais, c'est très difficile.
On va offrir nos sympathies à toute la communauté. Merci beaucoup, Mgr Lacroix, de nous avoir parlé ce midi.
Ça fait plaisir, Éric. Bonne fin de journée, puis essayons de trouver des bonnes nouvelles. Puis si on n'en trouve pas, faisons-en des bonnes nouvelles. Il y a des belles choses à faire. On continue de travailler autant qu'on peut pour servir les gens, les accompagner. On va sortir de ça un jour.
Merci beaucoup, Monseigneur Lacroix. Bon week-end.
À vous aussi. Bye-bye.